Écoutez Accès libre.
Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna, Eddie Mestre, recherchiste et collaboratrice. Madame Campagna, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez de la France aujourd'hui.
Notamment. Je parle de l'Association des paralysés de France qui déplore que 14 ans après la promulgation de la loi handicap du 11 février 2005, qu'il y a autant de reculs récurrents opérés par les différents gouvernements sur des questions d'accessibilité et de compensation et des ressources.
Ça, c'est un petit peu leur parallèle de notre C81, là.
Oui.
OK.
Oui, un peu leur ADA aussi, quand même, parce que C81, ici, c'est quand même des bâtiments fédéraux, là.
Oui. Oui, effectivement, c'est uniquement à ce qui a trait à ce que le gouvernement fédéral a juridiction.
Voilà. Donc, le principe, en 2005, c'était l'accessibilité pour tous et toutes. Et en 2019, on compte, le compte n'y est pas, dit l'APF, je dis toujours l'AFP, je me mélange avec l'Agence France-Presse. Par exemple, en témoigne l'adoption de la loi Élan qui prévoit de faire passer de 100 % de logements neufs accessibles à seulement 20 %. C'est ce qu'on appelle un gros recul. On parle aussi du fait que 2 millions de personnes en France en situation de handicap sont sous le seuil de la pauvreté. Que l'allocation aux adultes handicapés, couramment appelée l'AAH, pénalise les gens qui vivent en couple et pénalise aussi les titulaires de pensions d'invalidité. Et il y a une autre prestation qui est le PCH.
Déjà, c'est pas toujours évident de vivre en couple.
Ben
si
déjà,
en plus, on est pénalisé.
Ben oui.
Ça, c'est un petit commentaire éditorial.
Ben quand on est pénalisé, en plus, on est en dépendance financière du conjoint.
Ouais.
Ça peut être un enjeu. Il y a une autre allocation qui est le PCH, qui est une aide financière versée par le département qui est destinée à rembourser des dépenses liées à la perte d'autonomie. On dit qu'elle reste largement insuffisante et que donc on se retrouve avec quand même encore trop de charges à payer avec des revenus souvent à la baisse. Et donc, on veut que ce soit complètement pris en charge. Et pour tout ça, il y a une pétition qui accompagne ce texte sur le site de l'Association des paralysés de France. Maintenant, on s'en va à New York.
OK.
On s'en va à New York où, selon un article du site Curbed, le nombre de stations accessibles à Manhattan telles que promulguées là, serait artificiellement gonflé.
Bon.
Et on a noté plusieurs lacunes. On dit que certaines stations sont accessibles alors qu'elles ne le sont que pour une seule direction, que certaines ne permettent pas de passer d'une ligne à l'autre.
Ils ont juste à aller jusqu'à l'autre bout,
ben oui.
Revenir, puis revenir.
Et on a noté beaucoup de lacunes de la signalisation, particulièrement en ce qui concerne les ascenseurs. Il faut dire que l'accessibilité du métro de New York est revenue dans les manchettes récemment parce qu'il y a une mère qui descendait des escaliers avec une poussette dans les mains qui est tombée et qui est décédée.
Oh! OK.
Alors, ça a beaucoup mis de lumière sur les questions de l'accessibilité du métro de New York.
On n'a pas d'idée combien de stations le sont intégralement?
Intégralement, là, un coup, on tient compte de tout ça. Non, l'article n'allait pas à ce point-là dans les détails. Maintenant, ça va en Amérique du Sud.
Allons-y.
En Guyane, des personnes sourdes devraient manifester aujourd'hui pour obtenir le droit de conduire.
Mais voyons-vous,
ouais.
Les sourds n'ont pas le droit de conduire en Guyane.
C'est plus subtil que ça.
OK.
C'est pas interdit de conduire, mais pour passer l'examen, il faut qu'il y ait une recommandation d'un commissaire au transport et qui peut, lui, juger si la personne représenterait ou non un danger pour le public. Et la réalité, c'est qu'elle n'autorise jamais les personnes sourdes à passer l'examen de conduite. Donc, ce n'est pas la loi qui devrait être changée selon les organismes de l'Association des personnes sourdes de Guyane, mais les directives que l'on donne à ces personnes-là qui vont devoir changer. Donc, c'est comme un préjugé qui perdure.
En fait, c'est comme si les députés ne voulaient pas prendre le blâme sur leurs épaules. Alors, la loi dit une chose, mais ensuite, c'est sûr qu'il y a des ordres qui proviennent d'en haut pour que 100 % des personnes sourdes n'aient pas droit à un permis de conduire.
Voilà, exactement.
OK.
Et puis, quelque chose d'un petit peu plus cocasse, mais quand même agaçant quand ça se produit souvent.
Donc, disons que c'est quelque chose de coq-agaçant.
Oui, tiens, joli néologisme. Tu te souviens de Neil DiMarco, notre activiste sourd qui avait fait le segment avec...
pour les policiers, là.
Sur les policiers. Ouais. Ben, il a tweeté cette semaine qu'une compagnie aérienne, la compagnie United Airlines, lui avait encore prévu un fauteuil roulant à sa sortie de l'avion.
Okay.
Et que c'est pas la première fois que ça lui arrive et que ce n'est même pas la première fois qu'il tweete à ce sujet. La veille, un autre activiste sourd avait fait un tweet racontant une anecdote semblable. La compagnie a répondu quelque chose de vague et de très bureaucratique là, qui dit que chaque fois qu'on précise des besoins spécifiques des besoins particuliers dans une réservation qui prévoit un fauteuil au cas où, pour des raisons d'efficacité, au cas où ils auraient besoin d'un fauteuil. Ça a beaucoup fait réagir d'autres utilisateurs sourds sur Twitter qui ont dit que ce serait beaucoup plus utile d'améliorer les messages d'embarquement que de fournir un fauteuil roulant aux personnes sourdes.
C'est vrai que ça en est drôle. Moi, ça m'est arrivé. Mon fils, qui a la même pathologie oculaire que moi, a aussi subi l'imposition du fauteuil roulant. C'est comme les gens, ils réfléchissent pas. Ils font juste faire ce qu'on a toujours fait.
Voilà.
Merci, Mme Campagnard.
Un plaisir.